Vous écoutez
RMC.
Daniele, ton cœur a battu fort ce week-end. Ta Roma a vécu un dimanche de rêve, et toi aussi. Victoire dans le derby face à la Lazio et un pas vers la Ligue des Champions. C'est pas entériné, t'en parlais tout à l'heure, mais le retour en C1 7 ans après est tout proche.
Bah oui, la Roma est une équipe qui a plusieurs fois dépassé les attentes. Gasperini même l'a dit après avoir fêté avec les supporters. Il a dit on va au-delà des attentes. Ces groupes de joueurs, ils vont au-delà des attentes. Vous vous souvenez peut-être, après 12 journées, la Roma était première en classement. On ne savait pas comment, on ne savait pas pourquoi. Elle avait une bonne défense, mais on se disait mais comment ça se fait? Là, on regarde le classement, on se dit comment ça se fait que la Roma elle a 70 points. On regarde le match contre la Lazio, au bout d'une demi-heure, on se dit comment il peut y avoir 20 points d'écart entre cette Roma-là et la Lazio qui menait le match, qui avait plus d'occasions. Elle était meilleure sur les terrains. Mais tout a changé avec deux corners, avec deux buts de la tête de Mancini, qui c'est les leaders du vestiaire, mais aussi les leaders de ce que certains supporters appellent la bande de la sixième place. On en a parlé. La Roma, ça fait depuis 2018 qu'elle rentre pas en Champions League, qui enchaîne la sixième et la septième place. Deux fois seulement, elle est arrivée cinquième. Et c'est surtout pour ces groupes de joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Mancini, Cristante, qui c'est un des joueurs avec le plus de matchs avec les maillots de la Roma dans l'histoire de la Roma. Pellegrini ou même Dybala. Tous des joueurs qu'ils avaient les contrats en train d'expirer cet été ou l'été prochain. Qui ont pensé, bon, la Roma elle va se débarrasser d'eux parce qu'il faut tout changer. Gasperini va tout changer. Mais il y a quelques semaines, Gasperini a dit non, pas du tout. Moi, je veux pas me débarrasser de ces joueurs-là sans savoir qui va arriver après eux. Sur ces blocs de joueurs-là, je veux bâtir l'équipe du futur. Même en disant peut-être va y avoir des joueurs meilleurs que ça, mais ça on va les garder. On va les garder sur les bancs. Ils vont rentrer. On va pas les renvoyer si on n'a pas de mieux en gros. Et il a été réveillé parce que Mancini il a fait gagner ce derby incroyable. En plus, il faut peut-être pour le public pas italien ou pas de Rome, Mancini il est pas aimé. Il est pas aimé par les supporters de la Lazio et c'est un euphémisme. C'est même les pires joueurs qui pouvaient marquer un doublé dans un derby. C'est imaginez votre ennemi juré. Parce que, en fait, lui, après les derbys que la Roma il gagne, il prend les drapeaux où il y a les couleurs de la Roma et une petite souris avec les couleurs de la Lazio au milieu. Donc, imaginez un joueur qui fait ce genre de choses-là. Ils avaient vraiment l'aile et c'est lui qui a marqué les deux buts. Donc, c'était un cauchemar pour la Lazio. Un rêve pour la Roma aussi parce que, il faut le dire aussi, il y avait les matchs en contemporanéité de la Roma à la Juventus, Milan et Naples. C'est-à-dire les matchs des équipes qui jouaient la place pour la Champions League. Donc en sachant que la Juventus, elle perdait contre la Fiorentina, la Roma, en gagnant ces derbys-là, elle allait en Champions League. C'était inattendu même au début de la saison. Parce que Friedkin, quand ils ont cherché Gasperini, ils pensaient pas aller en Champions League tout de suite. Il pensait, bon, ça va être une année de transition. Il y a eu les moments de tension entre Gasperini et Ranieri. Ils ont décidé de garder Gasperini pour garder la continuité, pour dire, ah bon, on va faire ça dans 3 ans. On va pas prendre des décisions tout de suite. Mais là, ils vont être réveillés tout de suite. Je pense que même, c'est un résultat inattendu, mais aussi qui arrive un peu trop tôt peut-être, parce que la Roma, si on regarde l'équipe, elle est loin d'avoir une équipe des Champions League. Donc cet été, il va falloir bosser.
Mais tu vas la construire. Et puis avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu peux te faire quand même une place parmi les 24 qualifiés pour la phase suivante. Comment on vit ça à Rome, justement, autour de Gasperini? On a raconté notamment un podcast, les tensions Gasperini-Ranieri, qui a été conforté par Friedkin. Comment on vit cette fin de saison, justement, et un éventuel retour en Ligue des Champions?
Ben là c'est très bien, ils sont tous très 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 contents. En plus c'est pas pour exagérer la portée du derby, mais à Rome c'est le deuxième match le plus important de la saison. N'importe qui arrive, s'il y a une finale, ok, la finale est la plus importante. Mais s'il y a pas de finale, c'est le match le plus important. Et là c'était un match où il y avait un jeu, quelque chose d'important et que la Roma elle arrivait à le gagner. Gasperini, au début, il n'était pas trop aimé parce que c'était quelqu'un du Nord. Quand il entraînait l'Atalanta, il n'était pas gentil avec la Roma. Il ne parlait pas bien de la Roma. Il y avait une grosse rivalité entre la Roma et l'Atalanta. Mais là, je pense qu'il a franchement conquéré l'équipe. On dit toujours qu'à Rome, pour vraiment entraîner bien la Roma, il faut un entraîneur étranger ou du Nord, qui en gros c'est comment dire étranger. Mmh. On a eu Lidl,
messieurs.
Et Capello.
On a peut-être un pénalty pour Arsenal. La VAR, après une faute non sifflée par l'arbitre sur Bukayo Saka.
Ah non, si. Apparemment pas. T'es en retard sur nous peut-être, hein. Ce qui est fou de la France, c'est en avance sur toi sur un match anglais. Là, l'arbitre a dit pas de penalty, le jeu a repris.
Exactement.
Ah, dommage.
Je viens de l'avoir sur mon écran.
On a failli avoir un commentaire en VO, Julien Laurent, sur penalty. Ouais, Arteta n'y croit pas. C'est un moment important pour cette minute de jeu. 0-0 entre Arsenal et Burnley. Daniel, je te rends la parole pour conclure sur la Roma.
Non, je disais juste que voilà, les entraîneurs qui marchent à Rome, c'est des étrangers. Mourinho, Lidl, Capello, on va dire c'est un étranger, quelqu'un qui ne vient pas de Rome. Et là, Gasperini, il a cet air un peu de Zeman aussi. C'est, on dirait un étranger quand on le regarde. Il a un peu toujours mal à l'aise avec les supporters et tout. Mais je pense que c'est aussi ça que ça marche, qu'il a changé un peu la culture et cette espèce de cynisme qu'à Rome on a, mais pas pour gagner. Ça fait du bien, quoi.
Et pour réussir peut-être enfin dans un grand club, hein, Gasperini qui avait échoué lorsqu'il avait quitté, notamment quand il avait rejoint des clubs plus ambitieux. Alors, Polo, parlons de Fribourg, qui va jouer mercredi le plus grand match de son histoire, tu nous l'as dit. Finale contre Aston Villa, le club du Baden-Württemberg, pardon. Est-il prêt, mon cher Polo? Il l'a gagné ce week-end lors de sa dernière journée à sceller une 7e place en Bundesliga. Maintenant, la montagne va s'élever un peu plus, c'est mercredi soir.
Mais c'est en fait ce qui est très, bon. Déjà, ce qui est toujours impressionnant, il y a deux choses à dire sur Fribourg. Un, les trains à Fribourg arrivent toujours à l'heure, c'est-à-dire que il se passe jamais rien de spécial, ils font juste le taf. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est n'analyser jamais le club dit Fribourg à l'aune de la saison en cours. Il faut regarder l'évolution sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, pour voir comment ce club monte petit à petit vers les sommets au minimum du football allemand. Sauf que...
Oh, le but d'Arsenal ! Il est là, le but d'Arsenal !
En anglais, s'il te plaît !
Just scored for Arsenal, maybe the goal that will give them the title after 22 years of waiting. And guess what? 7 PSFC, olé olé! 7 PSFC, olé olé! 7 PSFC, 7 PSFC, 7 PSFC, olé olé!
Sur corner encore une fois, bien sûr. J'ai pas toute la traduction, moi j'ai compris l'essentiel. Bravo Julien, excellent. Mon Dieu. Voilà, commentaire en VO en direct de Julien Laurence. But d'Arsenal 1-0 face à Burnley à la 38e. Peut-être le but du titre, même s'il restera une journée derrière. En tout cas, virtuellement, Arsenal a 5 points d'avance sur City qui jouera demain contre Bournemouth. Ça nous en fait, hein, c'est un deuxième but, Julien, on s'est régalé. Même Polo est pas mécontent d'avoir été coupé pour ce commentaire. Mon cher Polo Show.
De Kai Havertz aussi sur un corner de Saka. Et je pense que Saka, dès que le ballon quitte son pied, il sait que ça va être dans le but.
Ça fait quoi? Ça fait 17-18 buts sur le corner cette saison, au coup de pied arrêté.
Ça va être le 18e ou le 19e, moi.
Quelle folie. Incroyable. En tout cas, le stade de l'Emirès qui explose littéralement 1-0, c'était poussif. Mais voilà, Polo, je te rends la parole sur la Fribourg, hein, qui affrontera un club anglais, j'ai dit, mercredi soir.
Évidemment, Aston Villa. Et donc, en fait, ce qui est toujours impressionnant avec Fribourg, c'est le fait d'être qualifié pour la C4 l'année prochaine. Ils n'ont aucune pression. Et ce qui est extraordinaire, depuis quelques années, on posait la question, il faut se rendre compte de ce que c'est que Fribourg. Il y a encore 15 ans, c'est un club qui redescendait en seconde division. Sa première année en Bundesliga, c'est 1993. Donc c'est un club nouveau, entre guillemets, dans le football allemand. Et c'est un club qui devait se battre et qui finalement est allé chercher pour la première fois une Coupe d'Europe, enfin une qualification européenne, etc. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont toujours là et de plus en plus présents. Et évidemment, en face, c'est Aston Villa. Donc Fribourg, personne en Allemagne pense que Fribourg peut aller chercher la Coupe du UEFA à Istanbul. Mais ce qui est impressionnant, c'est que on parle beaucoup avec Jörn Zayer, qui est le manager de l'équipe. On lui pose toujours, mais c'est quoi votre plafond de verre? Et lui, il l'explique très bien. On l'a vu en 2022, lorsqu'ils étaient pour la première fois de leur histoire en 8e de Ligue Europa, ben ça s'appelait Aston Villa. L'année d'après, et ben c'était la Juve. Et puis on a oublié quelque chose qui était très très important, c'est qu'en fait en 2022, en 2023 et en 2025, ben déjà, Fribourg pouvait se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de championnat en 2022-2023. C'est pas eux qui pouvaient gagner leur match, mais c'était les autres qui décidaient. Et il y a eu une contre-performance l'année dernière où ils jouaient justement Francfort pour une finale en Ligue des Champions, et Francfort est allé l'emporter à Fribourg. Et là, en fait, à nouveau, tu as la possibilité de Fribourg, en cas de victoire, d'aller en Ligue des Champions, qui est un petit peu le plafond de verre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Fribourg, c'est que chaque année, boum, ils essayent. Il y avait Aston Villa, c'était trop fort. Il y avait la Juve, c'était trop fort aussi, deux fois de suite en huitième de finale d'Europa League. Là, regardez le parcours de Fribourg. Ils ont pas battu des monstres de guerre, hein, les
Fribourgeois. De leur chapeau à peu près.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont la seule défaite qu'ils ont tenue, c'était contre Lille et tout le monde s'en fichait. Ils étaient déjà dans le top 8. Mais ils ont battu des équipes qui étaient certes intéressantes, des très belles équipes, je pense au Celta, etc. Ou Braga en demi-finale, c'était loin d'être gagné d'ailleurs cette demi-finale. Et mais ils ont pas, si tu veux, réussi à battre des monstres. Aston Villa, au-delà de l'histoire que d'Aston Villa avec le football allemand, évidemment, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions en 1982 contre le Bayern, c'est un petit peu Emery, c'est les titres qu'il a gagnés, c'est une équipe qui est supérieure à Fribourg à tous les postes, même Manzambi, je pense, n'est pas le meilleur au milieu de terrain par rapport au milieu de terrain d'Aston Villa, mais ça fait partie des belles histoires du football, et comme ils seront en Europe de toute façon l'année prochaine, bah, on y va tranquille, quoi. C'est ce que tu veux qu'ils... Et ça, c'est Fribourg.
Le défi est énorme. Aston Villa, on l'a dit tout à l'heure, qui a déjà assuré sa quatrième place, sa place en Ligue des Champions saison prochaine, avec évidemment l'histoire Unai Emery, qu'on a raconté mille fois, qui a déjà gagné 4 Europa League, Julien, 3 avec Séville, 1 avec Villarreal. C'était d'ailleurs contre Arsenal, si je ne me trompe pas, en finale de Ligue Europa, pour Unai Emery. À quel point c'est important pour lui ce rendez-vous-là? Parce que sincèrement, s'il fait Ligue Europa plus quatrième place de Première Ligue, franchement, saison encore somptueuse pour le coach espagnol, quoi.
Ouais, alors que pourtant tout n'a pas été non plus aussi facile que ça.
Il y a un gros trou d'air au milieu de saison aussi.
Exactement, ouais. C'est compliqué. Ils ont des restrictions financières. On l'a déjà expliqué aussi au niveau de leur budget. Ils ont beaucoup dépensé pour en arriver là aussi, c'est vrai. Et c'est pas un club qui rapporte autant d'argent malgré les droits de télé aussi que les autres gros en Angleterre. Donc moi je trouve que ce qu'il arrive à faire, c'est encore incroyable. Cette confiance qu'il arrive à donner à cette équipe-là, les progrès individuels, collectivement. Bon, ça va, mais individuellement aussi sur certains joueurs. Morgan Rogers par exemple, qu'il est allé chercher en championship et à qui il a fait passer pas un mais deux voire trois paliers même, c'est assez incroyable. Et alors forcément sa légende à lui au club, si en plus il venait à remporter ce trophée là ce serait en plus incroyable, comme tu l'as dit, en plus une quatrième place et un retour en Ligue des Champions, un retour par rapport à la saison précédente en Ligue des Champions, ce serait aussi superbe. Mais oui, alors après on peut toujours débattre du fait qu'est-ce qu'il est fait pour ce genre de club là ou pour les très très gros clubs, peut-être pas Arsenal, le PSG, ça s'est moins bien placé qu'à Séville, Villarreal ou Aston Villa, mais pourquoi pas, hein, tous les entraîneurs ne peuvent pas non plus entraîner les très grands clubs, et ils sont très forts dans les clubs comme ça et pas assez forts pour les très grands clubs, c'est comme les joueurs, c'est pareil. Donc là vraiment ce serait une fin de saison juste incroyable pour eux, et forcément ils sont aussi favoris et ils le savent, donc à voir ce que ça va donner.
Fin de saison incroyable pour le football anglais, Julien, tu peux faire un triplé Arsenal Ligue des Champions, ouais. Crystal Palace en conférence et Aston Villa. Est-ce qu'il y aura un resto au bout? La question est celle-ci. Est-ce que tu vas enfin payer ce resto que tu nous dois tous depuis 10 ans? Ça, je crois que c'est pas gagné.
J'ai jamais trouvé un endroit assez grand pour tout le monde. C'est ça le problème, en fait. J'aimerais bien.
Ah oui, ça n'existe pas, évidemment.
Ah oui, donc je vais voir ce que je peux faire, quoi.
Bon. La minute, la troisième de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Timothée. Oh, j'aime. Ah, ça me parle.
Ah oui. Et tu m'avais demandé, Nico, un peu de musique électronique.
Exactement, je suis servi. Merci, Daniel.
Ben ça, c'est Lori D, un DJ roman historique, un pionnier de la techno. Et les morceaux, ils s'appellent The Sound of Rome. Une ville magnifique, romantique, mais il y a toujours un arrière-plan, ce son métallique des conflits qui l'anime. Pendant ces derbies, on s'est surtout souvenu des conflits institutionnels qui sont ressortis. Parce que, comme il disait mon grand-père, je ne sais pas si on dit ça en français, les poissons pourrissent toujours par la tête.
Oui.
C'est-à-dire qu'on dit ça, les problèmes ils viennent de ceux qui sont au sommet.
Sauf dans le capitalisme.
Ouais.
C'est vrai, t'as raison. En général, la tête s'en sort bien.
Oui, ben, pas forcément dans les autres systèmes aussi. La tête, normalement, ça pourrit aussi. Mais en gros, il y avait ces derbies. On savait depuis le début de l'année que dans ce week-end, il y avait la finale du Master de Rome de tennis, donc la finale des Sinner. Mais personne s'est préoccupé de ça jusqu'à la semaine dernière, où ils ont plusieurs fois changé la date et l'heure du match. Ils ont essayé des joueurs de jouer le lundi. Mais les supporters de la Roma, ils ont menacé de ne pas rentrer dans les stades. Les supporters de la Lazio, déjà, ils ne rentraient pas dans les stades parce qu'ils sont en polémique avec l'Otito. Et donc, la préfecture, elle craignait une guerre, en gros, en dehors de stade pendant les matchs. Et donc, ils ont dit, bah non, on va jouer le dimanche. Mais les dimanches, il y a les matchs de tennis. Donc, ils ont demandé à la Fédé italienne de tennis de décaler d'une demi-heure. Mais le président, Angelo Binaghi, il a dit, bah non, pourquoi c'est nous qui devons décaler? Pour les Italiens, c'est plus important, c'est meilleur que le football. Donc, c'est vous qui dégagez. Et après, il y avait les autres matchs, Milan, Juventus, à Naples aussi, qui devaient suivre les derbies. Donc, finalement, ils ont choisi cet horaire-là de midi, inhabituel. Il y avait une chaleur incroyable. Et ils ont joué la Roma, Milan, Naples, ils jouaient tous à midi. C'était un emblème de cette saison fiasco. Il y a eu des problèmes institutionnels l'un après l'autre. Et on comprend de plus en plus que les problèmes du football italien ne naissent pas et ne meurent pas, surtout sur les terrains.